Studio Tamani, voici les informations en français.
Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, à cette édition matinale. Voici donc les titres. Nous sommes à moins d'une semaine de la fête de Tabaski. Au grand marché de Bamako, les boutiques sont bondées de marchandises, mais des commerçants déplorent le manque de clients. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, HCR, alerte sur la situation humanitaire dans des pays du Sahel. L'organisation plaide pour le maintien de l'aide humanitaire internationale dans les zones concernées. À Bankass, deux adolescents ont été assassinés par des hommes armés non identifiés la semaine dernière. Une situation qui a créé une psychose au sein de la population. Le point complet de ces grandes lignes dans un instant avec Juliette Koulibaly. Mamadou Ouattara assure la technique. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. La fête de Tabaski ou l'Aïd el-Kébir s'annonce à grands pas. À quelques jours de cette fête, le grand marché de Bamako est inondé d'articles divers. Toutefois, les relations entre clients et commerçants sont très souvent tendues durant ces temps. Les clients dénoncent la cherté des produits. Les commerçants pensent le contraire. Cependant, tous regrettent la conjoncture économique actuelle. Notre reporter Ousmane Nyalibouli a fait un tour au grand marché de Bamako.
Vous l'aurez compris, nous sommes au grand marché de Bamako où les clients affluent en ce moment. Des usagers viennent des différents quartiers de la capitale et de l'intérieur du pays pour acheter les produits nécessaires pour la fête de Tabaski. Certains clients dénoncent la cherté des produits.
Bon, si vous venez pour l'achat des habits des enfants, bon, le prix est un peu cher par rapport à l'année dernière.
Je vois de beaux articles, mais je n'ai pas assez d'argent pour les acheter, alors que les enfants ont besoin d'habits pour la fête. On achète dans la difficulté.
Le marché est très difficile. Les produits sont chers. Le déplacement n'est pas facile pour nous, les habitants de Maïna.
Les prix des articles varient. Les prix dépendent du marchandage.
Pourtant, des commerçants rencontrés estiment que les prix sont abordables, mais ils déplorent le manque de clientèle. Une situation, selon eux, due à la conjoncture économique du pays.
Je vends les soucis. Bon, c'est pas comme les autres années, quoi.
Les clients viennent timidement, mais ils se plaignent de la cherté de vie.
Je vends des fax cousus. La clientèle est morose.
Ma boutique est remplie de marchandises, mais les clients se font rares. Les gens n'ont pas d'argent.
Auparavant, à la veille de la fête, les gens se riaient sur nous. Mais c'est le contraire cette année.
Rappelons que la fête de Tabaski ou El Kabir est prévue pour le 17 juin prochain, selon les autorités religieuses. En attendant, des chefs de famille tentent à tout prix de subvenir aux besoins familiaux.
Vous pouvez réagir à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte X. Sur un tout autre sujet, le secrétaire général du Syndicat national des assurances, banques et établissements financiers du Mali, Hamadou Noba, a recouvré hier la liberté. Suite à cette libération, le syndicat a annoncé la levée de son mot d'ordre de grève lancé depuis jeudi dernier. La population a bien accueilli cette libération. Pendant que des citoyens se félicitent pour cette issue heureuse, d'autres demandent à l'État de prendre des mesures pour prévenir de telles situations. Situation qui ne pourront qu'en rajouter à la crise que notre pays traverse. Ces Bamakois se sont exprimés au micro de Mamadou Samasekou.
Il y a eu des crises plus difficiles que ça dans le pays. Par la force de la discussion, on a pu gérer. Je pense qu'on aurait pu procéder de la même manière que d'employer la méthode forte, mettre le monsieur en prison, le faire sortir. Entre-temps, c'est les populations qui souffrent toujours, malheureusement.
Concernant la justice, il est temps que l'État malien s'assume.
Vu l'importance de la banque, la libération de Hamadou Noba ne peut que servir le pays.
Ça a freiné beaucoup dans plusieurs secteurs. Donc, elle est bienvenue vraiment.
On est vraiment heureux qu'il soit libre. Pour le reste, ils n'ont qu'à prôner le dialogue.
Je suis content qu'ils couvrent la liberté. Je demande aux autorités d'éviter des tensions de ces gens.
Parlons à présent d'éducation. Les épreuves écrites du brevet de technicien 1 et 2 ont démarré ce lundi matin sur l'ensemble du territoire national. Ils sont plus de 15 427 candidats à concourir sur L'ensemble du territoire national, selon le Centre national des examens et concours, les responsables de la structure affirment que toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement. À Bamako, les épreuves écrites ont bien démarré à 8 heures au niveau du centre de l'ESICA. Plus de détails dans ce reportage signé Moussa Agamahaha.
Au centre d'examen de l'école centrale de l'industrie, le commerce et l'administration ESICA, ils sont 588 candidats à faire la première partie du brevet de technicien. Selon le chef de centre Alou Badra Diabaté, cette première journée des examens se déroule bien.
Tous les candidats ont commencé les épreuves à l'heure indiquée à 8 heures. Les surveillants étaient sur place. Ils ont commencé à travailler et tout se passe bien jusque-là. Les conditions sont remplies pour que ça se passe bien. Également, nous avons l'appui de la sécurité. Nous avons la police qui est dans la cour pour veiller à la sécurité des locaux.
Pour les candidats rencontrés sur place, les sujets étaient abordables et les premières épreuves se sont bien déroulées.
On vient de faire des ouvrages hydrotechniques. Il faut se préparer, il faut vraiment réviser, il faut apprendre.
Oui, le français a été bien passé. La surveillance aussi, c'est bon.
Nous venons de faire l'épreuve du français. Bon, les sujets étaient abordables. Donc maintenant, on a fait ce qui est dans notre capacité. Maintenant, voilà, on attend les résultats.
Il faut rappeler que les épreuves écrites de ces examens prendront fin le jeudi 13 juin 2024.
Autre actualité de cette édition, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR s'inquiète de la crise humanitaire dans les pays du Sahel. L'annonce a été faite vendredi dernier lors d'un point de presse tenu à Genève. Au regard de la situation, le HCR plaide auprès de la communauté internationale pour maintenir l'aide pendant l'instabilité politique dans la région du Sahel afin d'assister les communautés vulnérables. Le point avec Sita Sidibé.
Des données d'avril 2024 indiquent que plus de 3,3 millions de personnes sont déplacées de force en raison des conflits incessants au Burkina, Mali et Niger. Une situation exacerbée par l'aggravation des efforts de la crise climatique. Face à la situation, le Haut Commissariat pour les réfugiés exige que des mesures immédiates soient prises pour éviter qu'elles ne s'aggravent. Selon le HCR, la situation sécuritaire dans le Sahel central est instable, obligeant des populations à fuir leur localité. Le HCR indique qu'actuellement, il y a plus de 200 000 réfugiés maliens en Mauritanie, 130 000 au Niger et près de 40 000 au Burkina Faso, ainsi que 50 000 qui ont fui vers l'Algérie. Par ailleurs, le HCR appelle à investir dans les systèmes sociaux de protection essentiels afin de soutenir les populations avant qu'elles ne soient forcées à se déplacer.
Je vous le disais, dans le sommaire, des hommes armés non identifiés ont assassiné deux adolescents vendredi dernier, 7 juin 2024. Selon des témoignages, les victimes étaient à moto et venaient du village de Ndé, cercle de Bankas. Le crime a été perpétré entre les villages de Andakanda et Gejebomo, précisent les mêmes sources. Ce nouvel assassinat a provoqué la panique au sein de la population. Le lendemain de l'acte, certains paysans n'ont pas pu se rendre dans leur champ par peur d'être pris pour cible par les terroristes. Ils demandent aux autorités de sécuriser les localités durant cette période hivernale. De Bankas, nous partons à 100 où 13 jeunes entrepreneurs, dont deux femmes de la commune urbaine, ont reçu vendredi dernier des kits photovoltaïque pour leur installation. Ce don est de l'ONG Help. Selon ses responsables, l'objectif est de faciliter l'entrepreneuriat individuel et collectif des jeunes afin de favoriser un environnement favorable à la cohésion sociale. En plus des kits, chaque jeune a reçu un fonds de fonctionnement. Le geste a été rendu possible grâce au partenariat financier de la GIZ.
Studio Tamani, projet de la Fondation Hirondelle au Mali, en partenariat avec l'Union des radios et télévisions libres du Mali, Eurtel. Financé par l'Union européenne, le gouvernement du Danemark, de la Suisse, du Royaume-Uni et par la coopération espagnole.
À une semaine de la fête de Tabaski, les moutons sont visibles un peu partout, mais ne sont pas à la portée de tous les porte-monnaies. La pression de la famille et le regard du voisinage pèsent sur les chefs de famille. Un casse-tête pour ces derniers, alors que le mouton de l'Aïd El-Kébir est censé initialement être un simple animal de sacrifice. Sali Sissoko nous parle de cette situation dans le Zoom sur d'aujourd'hui.
Qui dit Tabaski ? Parle de moutons de sacrifice, mais aussi un moment de forte pression pour les chefs de famille. C'est le cas de Moussa, ce chef de famille qui n'a pas encore acheté son mouton. En cette veille de Tabaski, le prix du mouton dépasse ses moyens. Oui, car dans l'entourage de Moussa, ils sont nombreux à penser que la valeur sociale d'une famille se mesure par rapport à la grosseur du petit ruminant acheté pour la tabaski. À chaque matin, ses enfants lui demandent « Hey papa, enterrez papi faga sera belébélé sur le nougadala. » Le père de notre ami papi a acheté un gros bélier. Et la maman de répondre « Le nôtre sera plus gros. » Le soir à son retour, c'est la désolation totale, car il n'a rien apporté. Mais pour ne pas faire face au regard du voisinage, il finira par s'endetter pour acheter un mouton de 10 mois. Malgré tout, il sera critiqué. Comme Moussa, Adam a aussi fait face à cette situation. Contrairement à lui, il ne se soucie guère de la vindicte populaire. Il a acheté son mouton selon ses moyens, un bélier de 7 mois. Sa femme et ses deux enfants, Raymonté lui parle du regard des voisins. Il réplique en disant « Mais je n'ai rien à faire des ondis » pour dire qu'après la fête, la vie continue. Et puis, l'islam autorise le sacrifice des moutons dès les 6 mois.
Fin de cette édition présentée par Juliette Koulibaly. Mamadou Ouattara assurait la technique. Vous avez la possibilité de réécouter ce journal en appelant gratuitement sur Viamo au 37 321. Toutes nos productions sont également disponibles sur l'application Studio Tamani téléchargeable sur Play Store. Première région du Mali, Kayes est connue comme une zone importante de départ, de transit, mais aussi d'accueil de nombreux migrants africains. Située à 95 km de la frontière avec le Sénégal et à 500 km environ de la capitale Bamako, la région dispose même d'un centre de migrants. Daniel Ouédarago nous fait découvrir ce centre et c'est dans le cadre d'une coproduction des médias de la Fondation Hirondelle au Sahel, Studio Tamani au Mali, Studio Kalangou au Niger et Studio Yafa au Burkina Faso. Bonne écoute.
Lorsque nous franchissons l'entrée de la porte principale du centre, des cris d'un enfant attirent notre attention. Le tout petit, fils d'un couple de migrants guinéens, s'amuse dans les bras de son père. Ses parents, que nous appellerons Salif et Mariam, pour des raisons de sécurité, ont échoué dans leur tentative de rejoindre l'Europe par la voie clandestine. Ils ont été expulsés de la Mauritanie avant d'être accueillis dans le centre réservé aux migrants à Kayes par l'Organisation internationale pour la migration, OIM. Salif, Mariam et leur fils ne sont pas les seuls pensionnaires de ce centre, explique Samson Koné, chef du sous-bureau de l'OIM à Kayes.
Chaque jour, nous avons au moins une dizaine ou bien une vingtaine, sinon 50 personnes sont expulsées de la Mauritanie. Si les migrants sont profilés et qu'ils sont éligibles pour un retour volontaire, ils sont mis dans un centre qu'on a ici, un centre de transit. Ils sont logés, nourris. On leur donne des kits d'hygiène, des kits pour qu'ils puissent s'installer.
La famille de Salif partage les locaux avec deux Burkinabés et des Guinéens dans ce cadre aménagé par l'OIM à Kayes au Mali. Ils bénéficient d'un certain nombre de formations en vue d'entreprendre une fois de retour dans leur pays d'origine, nous indique Samson Koné.
Nous prenons contact directement avec leur consulat ou ambassade pour juste justifier leur nationalité. Et une fois cela établi, ils nous envoient ce qu'on appelle les laissez-passer, sinon leurs documents de voyage requis pour qu'ils puissent faire les déplacements. Comme ces migrants-là doivent aller dans leur pays d'origine, alors leur processus de réintégration va commencer à partir du moment où ils vont arriver, comme nous faisons aussi au Mali. Donc l'OIM du pays d'accueil aussi va prendre les relais pour qu'ils puissent commencer le processus de réintégration.
Depuis quelques années, ce centre est réservé aux migrants. À ce jour, une vingtaine sont en transit dans cet espace. Au Mali, l'OIM dispose également de centres de migrants dans les régions de Tombouctou, Mopti et Gao.